Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
Poil sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Bienvenue en ce vendredi 11 octobre 2024 à l'émission Radio X-Files. On est à plus ou moins 3 semaines de l'Halloween et déjà, mon cher Christian Page, j'ai commencé dans les magasins, je suis arrêtée un petit peu plus tôt avant l'émission, à voir des décorations de Noël. Non, déjà!
Ils sont vite sur le piton, hein?
Pas mal, fait qu'on va laisser les gens profiter dans les prochaines semaines des rabais sur les costumes, parce que ça arrive très bientôt. On va laisser place à Noël tranquillement, pas vite. Mais vivons le moment présent et vivons notre émission de ce vendredi soir. Tu as publié une super de belles photos cette semaine. Et on est aussi à une semaine de l'apparition de ton livre, Crime occulte 2, et tu as eu tout frais, tout chaud, la première impression à la maison.
Oui, c'est ce qu'on appelle les copies d'auteur. Donc, j'ai reçu ça cette semaine, en fait, hier. Donc, j'étais très content. C'est toujours un peu comme je l'expliquais, je pense, c'est la semaine dernière. Tu sais, même si on a publié plusieurs ouvrages, moi, c'est mon 16e, je pense. Quand on déballe la boîte puis on les sort, on est toujours un peu... on est un peu comme un enfant dans un magasin de jouets. On sent le papier... On feuillette les pages. Il y a comme une espèce d'engouement autour de ça. Hein? Donc, j'étais très content. Je suis très content de ce livre, content de la facture générale. Je pense que les gens vont découvrir, il y a 12 histoires qui sont de... le titre, Crime occulte 2. Donc, tu comprends que les crimes qui sont racontés, ce sont des crimes qui ont tous un volet occulte.
Oui.
Et dans celui-là, contrairement à ce que j'avais fait, c'est un peu amusant parce que dans le livre, j'ai consacré le dernier chapitre parce que lorsque l'on parle des crimes occultes, très souvent, je me rends compte que je fais référence à la peur satanique, mais c'est pas tout le monde qui sait de quoi il est question. C'est un peu amusant parce que j'ai l'impression que tout le monde, c'est un peu redondant, j'ai l'impression que tout le monde sait ce que c'est, mais j'oublie que... Il y a toute une jeune génération derrière là, qui n'ont jamais entendu parler de la peur satanique. Là.
Et je te fais une petite parenthèse parce que l'épisode de Suspect X de cette semaine, j'ai une collègue de travail à mon autre emploi qui m'a dit « Hey, savais-tu qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà prétendu être un vampire et il a tué quelqu'un? » J'ai dit « Ben, d'après moi, les antennes devaient te sonner lundi soir quand on en a parlé en ondes. » C'était le sujet cette semaine, le couple Ruda. On en a parlé. Ça m'a fait sourire.
Effectivement. quand j'évoque la peur satanique, c'est un épisode qui a marqué la fin des années 70, début des années 80, je te dirais même jusqu'aux années 90. Donc, une assez longue période. Bon, quand on parle de peur satanique, je pense qu'on devrait parler plutôt d'anxiété satanique. C'était plus proche de la réalité. Et contrairement à ce que les gens pensent, la peur satanique, c'est une peur qui est cyclique. Hein? Elle est toujours fonction des comportements sociaux. Puis il faut pas grand-chose pour la raviver. Hein? Là, les gens disent « Ouais, mais ça, la peur satanique, c'était dans les années 70 ou dans les années 80. » Non, non. La peur satanique, c'est dès que quelqu'un, il n'y a pas si longtemps... Un candidat à la présidence des États-Unis nous a dit « Ben gars, on mange des bébés dans des pizzerias », puis les gens sont allés voir s'il y avait vraiment de méchants démocrates qui mangeaient des bébés. Là. Mm. Tu sais, quand tu as d'autres élus qui nous parlent qu'on peut contrôler le climat, elle est là, la peur satanique. Hein? C'est cette espèce de peur irraisonnée qui nous fait ou qui oblige les gens à imaginer ou à diaboliser une peur ou mettre des traits sur une peur qui n'est pas vraiment présente. Hein. On a besoin de diaboliser quelque chose. La peur satanique, c'est un phénomène qui a bien été identifié par les sociologues, qu'on a bien compris maintenant quels sont les mécanismes. Il suffit de secouer un peu l'épouvantail pour qu'elle réapparaisse. Et ce qui est intéressant dans la peur satanique, c'est qu'elle nous montre qu'elle est toujours un peu fonction des changements sociaux, que ce soit des changements politiques, des changements économiques, des changements qui vont, par exemple, dans la peur satanique, les années 70 et les années 80 ont fortement été marquées par une transformation du tissu social et en particulier l'émancipation des femmes. Donc, on avait des femmes qui étaient, jusque dans les années 50, qui étaient des bonnes mères au foyer, qui s'occupaient des enfants. Et là, arrivent les années 60, c'est l'émancipation.
Ouais.
C'est la pilule anticonceptionnelle, c'est également les femmes qui se retrouvent sur le marché du travail, qui quittent les foyers, c'est la mise en place de systèmes qui vont prendre en charge les enfants et que, essayons de nous imaginer, là, si vous étiez des gens qui avaient grandi, qui étiez de la génération des femmes des années 30 ou des années 40, de voir ces jeunes mères à la fin des années 60, début des années 70, quitter le foyer, mettre leurs enfants dans des écoles, des garderies, pendant qu'elles allaient travailler, c'était épouvantable.
C'était contre nature.
Il y avait quelque chose là-dedans, une dégradation dans le tissu social, et on peut comprendre que des milieux religieux, assez extrémistes, ont vite brandi la peur que quelque chose se passait, que le diable était présent, et ça alimentait cette peur satanique. Donc, jusque dans les années 80, on imaginait qu'il y avait des satanistes un peu partout, que ces gens-là avaient infiltré différentes ressources du gouvernement, ils avaient infiltré les écoles, ils étaient dans toutes les sphères de l'activité humaine. Et là, évidemment, il y a eu toutes sortes de mécanismes qui ont été mis en place. Des gens utilisaient l'hypnose pour faire raconter à des enfants des épisodes d'agression sexuelle aux mains de satanistes qui n'avaient jamais existé. Tout ça est allé devant les tribunaux. D'ailleurs, le procès le plus cher de l'histoire des États-Unis et probablement le plus long, c'est celui de l'école McMartin qui avait été aux prises avec ces espèces d'accusations qu'on avait abusées sur des enfants. Il y avait des satanistes qui avaient infiltré l'école. Bref, et là, je ne fais que raconter quelques petits éléments. C'est beaucoup plus complexe que ça, la peur satanique. Hein? C'est tout un mouvement. Hein? Et même si à la fin des années 80, au milieu des années 90, cette peur satanique s'est essoufflée, principalement avec un travail, une enquête menée par le FBI, qui a bien démontré que ces mouvements satanistes, disons, articulés, tentaculaires, n'existaient pas, qu'il y avait quand même, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de crimes sataniques, puis il n'y a pas des dégénérés qui commettaient des crimes en disant « je suis le diable ».
Oui, parce que c'est factuel, on a des preuves là-dessus.
Voilà, mais de croire qu'il y avait une espèce de réseau à travers tous les États-Unis qui s'adonnait à des rituels sataniques et qui se connaissaient les uns les autres et s'échangeaient ou faisaient le trafic d'enfants ou le trafic d'humains, ça n'a jamais existé. Mais en même temps, et c'est un peu ce que je raconte dans le dernier chapitre de ce livre, là, Les tueurs de l'occulte 2. J'ai consacré un chapitre entier pour décanter un peu cette peur satanique et également montrer à quel point dès qu'il y a une peur sociale sur laquelle on n'arrive pas à mettre un nom en particulier, bien évidemment, on a besoin de diaboliser une cause et là, bon, on invente n'importe quoi, on s'invente des peurs et on se rallie derrière ces peurs pour diaboliser l'autre, parce que l'autre, c'est toujours l'ennemi. Donc, c'est moi, personnellement, j'aurais presque voulu écrire un livre sur la peur satanique, tellement que c'est un sujet qui m'a passionné de voir un peu comment ce mouvement-là avait pris place, s'était enraciné dans cette culture. Cette culture qui est assez amusante parce que ça suivait immédiatement la fin du Peace and Love, hein, où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Et là, tout à coup, arrive cette histoire de peur satanique.
Le pendule était rendu de l'autre côté, là.
Oui, voilà. Fait que donc, les gens pourront découvrir les tenants et aboutissants de cette peur. Je ne vais pas trop en parler, parce que je veux que les gens lisent le bouquin et qu'ils le découvrent. Mais j'ai, comme beaucoup de gens m'interpellaient là-dessus, oui, mais qu'est-ce que c'est que cette peur satanique? Ça a débuté comment? Qui étaient les principaux joueurs? Comment ça s'est arrêté? Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir? Vous allez tout trouver dans le 13e chapitre. C'est presque une malédiction. Le 13e
ben oui,
chapitre.
Mais,
et puis, bien sûr, il y a 12 histoires de crimes à caractère occulte. Et oui, comme tu l'as mentionné, j'ai reçu les livres cette semaine, mes copies d'éditeur. J'étais content, j'ai feuilleté ça. Merveilleux. Et donc, là, à partir des prochains jours, ce sera la campagne pour la publicité du livre. Très certainement le Salon du livre à Montréal. Certainement le Salon du livre à Québec également, début d'année. Tout ça se met en place. Et possiblement, là, je regarde ça, mais possiblement une série de conférences, Montréal et Québec, pour parler de ces tueurs de l'occulte 2.
C'est parfait. Christian, cette semaine, on a un peu plus de publicité en ondes, donc oui. Le temps va être un petit peu plus condensé ce soir. Et c'est la thématique des vendredis où on prend des questions des auditeurs. Oui. J'ai remercié d'ailleurs de le faire parmi nous, en fait. J'ai hâte de voir où tu vas nous amener avec tout ça. J'ai l'impression qu'on va se promener beaucoup. D'abord, oui. La première question dont on va parler ce soir, c'est le paradoxe de Fermi. Est-ce sérieux? Et moi, je dirais, qu'est-ce que le paradoxe de Fermi en premier?
C'est amusant parce que c'est une histoire qui remonte aux années 50 et on a l'impression que c'est les années 50, c'est vieux, c'est ancien, donc c'est dépassé et ça ne l'est pas du tout. Hein, le paradoxe de Fermi, ça porte le nom de Enrico Fermi, qui était un physicien italien qui vivait aux États-Unis. Hein. Il a travaillé notamment au projet Manhattan, la bombe atomique, tout ça. Okay. C'est un des plus grands physiciens. Il est dans la catégorie des Albert Einstein et compagnie. Là. Donc, tu vois un peu là, cette catégorie, la crème de la crème
les
des physiciens.
Prix Nobel, ben oui.
Oui, prix Nobel d'ailleurs en 1938 hein, pour Enrico Fermi. Et puis, à un moment donné, en 1950, il travaillait au laboratoire de Los Alamos, aux États-Unis, au Nouveau-Mexique. Là d'ailleurs, on a conçu la bombe atomique, le projet Manhattan, avec Oppenheimer. Et il y avait autour de lui des gens, hein, on commençait beaucoup avec les transformations du milieu de l'astrophysique et de l'astronomie. Il y avait une ouverture sur la grandeur de l'univers. Et là, les nombres étaient, sans faire de mauvais jeu de mots, les nombres étaient astronomiques. Hein, c'est-à-dire que dans les années 50 ou 60, on se demandait, bon, on savait qu'on avait un système solaire, nous, avec un soleil, 9 planètes. À l'époque, Pluton était encore une planète avant d'être rétrogradé. Moi, quand j'allais à la petite école, comme on dit, là, Pluton, c'était à la 9e planète. T'sais. Donc, elle a été rétrogradée. Mais néanmoins, on ignorait, là, dans les années 50-60, on ignorait si notre système solaire était une exception ou la règle. On l'ignorait. Et là, il y avait des débats scientifiques autour de ça. Et puis, voilà qu'arrivent les années 60, 70, avec l'avènement des nouvelles technologies, on a appris que finalement, notre modèle est un modèle tout à fait conventionnel. Une étoile avec des planètes qui gravitent autour. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près une étoile sur deux qui a des planètes qui gravitent autour. Et uniquement si on parle de notre galaxie, la Voie lactée, on oscille entre 250 milliards et 400 milliards d'étoiles. Et je dis bien des milliards. Là. Donc, entre 250 et 400 milliards d'étoiles.
C'est énorme.
Et on sait que l'une sur deux, maintenant, grâce à ces nouvelles découvertes, on sait que au moins une sur deux étoiles a des planètes qui gravitent autour. Mais dans les années 50, hein, c'était encore l'univers de la spéculation. Certains parlaient d'un nombre plus réduit, que c'était des exceptions, alors que d'autres étaient ouverts sur la grandeur de l'univers, milliards d'étoiles. Et là, on commençait à se dire, comment peut-on rejoindre est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Est-ce qu'il y a des civilisations extraterrestres? Comment pourrait-on prendre contact avec ces civilisations ou à tout le moins s'assurer qu'elles existent ou qu'elles ont existé? Et puis, à un moment donné, Fermi, grand physicien, était assis à une table voisine et il a lancé ça un peu comme une boutade. Hein? Il a dit, ben là, écoutez, là, les boys, là, si l'univers est si grand, puis s'il y a tant d'étoiles que ça, puis s'il y a tant d'extraterrestres que ça, là, pourquoi ils ne sont pas déjà ici?
Ah, OK.
Et ça, c'est le paradoxe de Fermi. Et il était vrai en 1950 et il est encore vrai en 2024. Pourquoi il est vrai? Parce qu'il faut savoir que l'univers, si on part de l'hypothèse du Big Bang, qui n'a jamais été réfuté. Là. C'est l'hypothèse qui domine aujourd'hui dans l'univers, dans le milieu scientifique, comment l'univers a été créé. Il y a 14 milliards d'années, une immense explosion. Toute la matière de l'univers a été créée à ce moment-là. Donc, c'était il y a 14 milliards d'années. Notre planète est née il y a 4,5 milliards d'années. Je te donne ces chiffres-là, c'est énorme, là, mais tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. La Terre est née il y a 4 milliards d'années et la vie sur la Terre est apparue il y a 3,8 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il y a moins d'un milliard d'années qui s'est écoulé entre la création de la Terre et l'apparition de la vie. Donc, on sait maintenant que la vie est quelque chose qui apparaît facilement. Hein, elle a besoin de deux éléments pour apparaître. Elle a besoin de l'eau à l'état liquide et elle a besoin de carbone. Et de l'eau à l'état liquide et du carbone, on en a abondamment dans l'univers. Et on voit que lorsque ces éléments-là se retrouvent ensemble, la vie apparaît rapidement, très rapidement. Donc, nous, notre étoile est née, notre planète est née il y a 4,5 milliards d'années. mais on sait qu'il y a des étoiles dans l'univers qui sont apparues presque immédiatement après le Big Bang. Quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, déjà des étoiles et des systèmes se produisaient. On est passé en moins, là, de grosso modo, là, en 4000 ans d'histoire, on est passé des pyramides aux hommes sur la Lune.
Wow, c'est vrai.
Donc, Fermi part du principe, il doit exister dans l'univers, si on part de ce principe-là, qu'une étoile sur deux avec des planètes autour, il doit, et comme notre étoile, notre planète, elle est très très jeune, Fermi, hein, son principe, c'est de dire, il y a dans l'univers des étoiles qui sont des milliards d'années plus vieilles que, plus vieux en fait que notre Soleil. Ces étoiles-là sont plus vieilles que notre Soleil. Et on s'imagine qu'elles ont elles aussi développé si elles ont développé de la vie, puisque une sur deux aurait des planètes qui gravitent autour. Bon, imaginons qu'il doit y avoir des centaines de milliards, de milliards, de milliards de civilisations qui existent dans l'univers, qui ont des centaines de milliards d'années d'avance sur nous. Ben pourquoi ils ne sont pas déjà ici? Ces civilisations, nous, en 4000 ans, on a réussi à conquérir l'espace. À quoi pourrait ressembler une civilisation qui aurait 1 million d'années d'avance sur nous ou 2 millions d'années d'avance sur nous? Ce serait incroyable. Or, on sort de la maison, il devrait avoir des extraterrestres partout.
Ah, est-ce qu'on résout le mystère des pyramides en disant qu'il y a quelqu'un qui a été parachuté pour le faire?
Tu sais, c'est ça. Fait que là, on se dit, c'est vrai qu'ils ne sont pas là. Et quand on regarde l'univers autour de nous, c'est désespérément vide. Pas de traces de ces extraterrestres, pas de visites, pas de sons. Hein, ça fait presque 70 ans qu'on écoute l'espace. On n'a rien capté non plus. L'univers semble désespérément vide. Et c'est là le paradoxe de Fermi. Pourquoi? C'est ça la grande question. Pourquoi? Et c'était vrai en 1950 et c'est encore vrai aujourd'hui. Et on n'a pas trouvé la réponse à ça. C'est une grande énigme. Donc c'est vrai que quand on parle de nombre de civilisations dans l'univers, même si on est dans le domaine de la statistique, on n'a pas trouvé ces explications-là. On a avancé quelques hypothèses. Peut-être que finalement, les civilisations n'arrivent jamais à un niveau de développement qui leur permettrait de voyager d'une étoile à une autre. Et pourquoi? Ben parce qu'elle s'autodétruit avant. Mmh. On regarde, nous, la civilisation est apparue, là, grosso modo, sur Terre, là, il y a à peu près 7-8 000 ans, si on parle de Göbekli Tepe, jusqu'à Göbekli Tepe et maintenant, là, on a à peu près 7 000 ans de civilisation. Et déjà, on commence à avoir de sérieux problèmes, des problèmes d'environnement, des problèmes de surpopulation.
Des guerres.
Donc, des guerres. Et on n'a que quelques milliers d'années, là. Et on a déjà de sérieux problèmes. Combien de temps nous faudra-t-il encore pour que la technologie nous permette de nous lancer à la recherche d'une autre étoile qui pourrait abriter des planètes susceptibles d'avoir de la vie avec un vaisseau spatial? Peut-être, grosso modo, 100 000 ans. Mais dans 100 000 ans, où serons-nous quand on regarde les problèmes que l'on a déjà maintenant?
Ouais,
et peut-être que c'est le destin de toutes les civilisations de s'auto-détruire avant de développer la technologie qui permet de voyager d'une étoile à une autre. Ça pourrait être une explication paradoxe de Fermi. L'autre hypothèse, c'est que les civilisations, même si elles réussissent à développer la technologie qui leur permettrait de voyager d'une étoile à une autre, elles n'ont pas envie de le faire parce qu'elles ont trop de problèmes. Imaginons la civilisation terrestre dans 100 000 ans. Quels seront nos problèmes économiques, nos problèmes de population, nos problèmes d'approvisionnement, nos problèmes d'énergie, nos problèmes de climat? Est-ce qu'on voudrait consacrer de l'énergie, du temps et de l'argent à se lancer à la recherche d'une étoile quelque part dans l'univers, un peu à l'aveuglette, alors qu'on aurait tant de problèmes à régler chez nous? Donc, peut-être qu'éventuellement, les civilisations se développent, atteignent des niveaux de grande technologie, mais les problèmes auxquels ils font face deviennent tellement énormes que toute la contribution de cette société est consacrée uniquement à la survie de leur population. L'autre élément, c'est peut-être qu'il existe dans l'univers quelque chose qu'on ignore, qui nous empêche ou qui empêche des civilisations extraterrestres d'entrer en contact avec elles. Entre guillemets, appelons ça, par exemple, la volonté de Dieu. On ne sait pas c'est quoi, là, mais appelons ça la volonté de Dieu. Et la quatrième question, et on doit s'y pencher, peut-être qu'on est vraiment seul.
Ouais.
On sait que la vie apparaît, hein, parce que les gens ont tendance à oublier, même si on dit « Ah, la vie, hein, je t'ai raconté ça, comme sur un pet, moi, là, la vie apparaît de même, c'est facile. » Mais il faut quand même reconnaître qu'au moment où on se parle, même si on a de bons candidats dans notre propre système solaire, hein, je pense par exemple à des lunes de Jupiter ou des lunes de Saturne qui
On dirait
pourraient
qu'on en
abriter des
trouve une
formes de
par
vie.
mois, en fait, Christian, qui dit « Ah, ça, il y a des caractéristiques qui ressemblent un peu
Oui,
à la Terre, là. »
mais objectivement, on n'en a jamais vu.
OK.
La seule forme de vie qu'on n'a jamais observée, c'est la vie terrestre. On a beau penser qu'il y a peut-être de la vie dans le sous-sol de Mars, sous les glaces d'Europe autour de Jupiter, sous les glaces d'Encelade qui tournent autour de Saturne. Mais même si sur papier, c'est bien beau tout ça, là, mais on n'en a jamais vu de la vie ailleurs que sur Terre. Jamais. Et ensuite, si on sait comment apparaît la vie, il y a une grande interrogation auquel on est incapable de répondre. C'est l'intelligence.
Ouais.
Comment apparaît l'intelligence? Quels sont tous les mécanismes qui ont fait que sur la Terre, l'intelligence est apparue? Quelles sont les chances que ces mêmes mécanismes puissent se reproduire sur une autre planète? Et ce, avant que cette vie-là ait disparu. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur Terre, la vie a passé à 5 reprises, tout près de disparaître. Hein? Évidemment, on connaît tous l'histoire des dinosaures il y a
Oui.
66 millions d'années, mais il y a eu 5 grandes périodes d'extinction sur la Terre. Et heureusement, à chaque fois, quelques espèces ont survécu pour que le système reparte à zéro, pour qu'on puisse remettre les compteurs à zéro. Mais peut-être que la vie intelligente, c'est pas la vie, mais la vie intelligente, elle est peut-être si rare que nos chances de la voir ou de la rencontrer, ou même que cette civilisation puisse apparaître quelque part en même temps que nous, est infinitésimale. Peut-être qu'il y a eu des civilisations intelligentes qui ont existé il y a 5 ou 6 milliards d'années, mais peut-être que cette civilisation-là n'existe plus. Alors au moment où on se parle, la vie sur Terre est peut-être la vie la plus intelligente qui existe dans l'univers aujourd'hui. En ce 11 octobre
Octobre, mais oui.
2024. Donc, c'est le paradoxe de Fermi. Et oui, c'est très sérieux, c'est une question, c'est une énigme qui est posée depuis les années 50 et qui est tout à fait encore d'actualité lorsque l'on discute de la prévalence de cette vie ailleurs dans
C'est
l'univers.
dans les plus grandes questions, voire crises existentielles
Oui,
de
oui, oui.
l'humain.
C'est amusant parce que cette semaine, je faisais une entrevue à la radio, puis quelqu'un me demande, il dit, est-ce qu'il y a encore des énigmes qui, dans 1000 ans ou dans 10 000 ans, vont continuer de persister, hein, avec l'avancement des sciences, tout ça? Puis la réponse, j'ai dit spontanément, je dis, il y a deux mystères sur lesquels on risque de se poser des questions encore très, très, très longtemps. Un, y a-t-il une vie après la mort?
Voilà.
Et deux, existe-t-il d'autres civilisations que la nôtre dans l'univers? Ça, je pense que c'est des questions qui risquent de perdurer encore pendant des siècles.
Tant qu'on n'est pas capable de trouver réponse à ces questions-là, ça va être impérissable. C'est clair,
Oui.
c'est le plus grand questionnement existentiel du genre humain.
Est-ce que tu veux qu'on prenne une pause là?
Tu me devances exactement, j'allais te
Oh,
demander ça parce
je le sentais dans ton hésitation. J'ai dit ça sent la pause.
On s'arrête quelques instants et au retour de la pause, tu vas nous parler des voyants.
Oui, absolument.
Super, restez là. Vous écoutez Radio X-Files, ici même, à Choix Radio X.
Radio X-Files, avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission, j'aime vous lire pendant les pauses et vous êtes particulièrement actifs sur le texto au 418-670-9098 et j'aime surtout quand vous nous mentionnez qu'un des mystères de la vie chrétienne, c'est aussi de savoir ce que les femmes veulent. Ça fait partie d'un des grands mystères.
Je n'aborde même pas cette question-là.
Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, c'est ce qu'on dit. Et après toutes ces années de lire un texto, qui est l'intervenant et en quoi a-t-il étudié? C'est trop intéressant. Ça me fait sourire de savoir que tu as encore des découvertes
oui,
pour
certains
auditeurs.
C'est toujours amusant, ça, de voir que des gens nous découvrent. Hein? C'est merveilleux. Espérons que cet auditeur ou auditrice restera branché sur le choix.
Ben, tu as, écoute,
feras le bon choix.
Tu as suscité son attention. Il trouve ça super intéressant ce soir et j'ai hâte de t'entendre sur la prochaine question. Doit-on utiliser des voyants dans les cas
Ouais.
de disparition?
Oui, c'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Je te replace un peu dans le contexte. Le 2 octobre, on apprenait la disparition d'Alexandra Lombayi, cette étudiante congolaise à Trois-Rivières qui est disparue,
oui,
et dont on a retrouvé le corps, là, c'est mardi dernier. Et actuellement, on est un peu dans le flou. Là, les conditions de sa mort, les circonstances de sa mort restent encore un peu floues. Mais il y a, en début de semaine, une vidéo qui a circulé d'une femme, une congolaise, qui racontait là, sur, j'imagine, une plateforme comme TikTok ou un truc comme ça. Elle disait, j'ai contacté des guides spirituels qui m'ont parlé qu'ils voyaient le corps d'Alexandra. Elle n'a pas mentionné nommément qu'elle était décédée, mais elle dit, je la vois dans l'eau et je la vois près d'un pont, le pont David. Et effectivement, le lendemain, on a retrouvé Alexandra dans les eaux qui baignent la marina de l'île Saint-Quentin qui se trouve à Trois-Rivières.
Mm.
Il n'y a pas de pont David, il faut quand même le dire. Là.
Okay.
Sur ce point-là, il n'y a pas de pont David. Mais néanmoins, elle avait quand même mentionné que le corps était dans l'eau. Bon, mais en même temps, il faut quand même se dire qu'au Québec, quand un médium nous dit qu'il est près d'un cours d'eau ou dans un cours d'eau, il faut quand même savoir qu'on n'est jamais à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, d'un étang,
ouais,
ou d'un lac. Bon,
c'est vrai.
C'est une affirmation qui est un peu facile. Et la deuxième question qu'elle posait, c'est, elle me dit, est-ce qu'on devrait utiliser des médiums? Les services de police aux États-Unis le font. Alors là, je me suis dit, hop, là, je pense que ça vaut la peine d'une petite réponse, là. Est-ce qu'on doit le faire? J'ignore si on doit le faire. Il y a des bonnes raisons de ne pas le faire. Je vais expliquer pourquoi. Et quant à savoir si des services de police le font, là aussi, il faut tempérer. C'est très rarement les services de police, je le sais pour avoir m'être penché sur la question. Dans mon livre « Les tueurs de l'occulte 1 », d'ailleurs, le dernier chapitre était consacré aux médiums voyants, hein, donc à ces détectives psy, comme ils s'appellent. Et donc, j'ai évoqué plusieurs cas où, effectivement, on a l'impression que le médium, le voyant, le sensitif, a donné des informations qualitatives. Je sais également que des policiers se sont prononcés sur l'utilisation de ces sensitifs. Laissons à la communication spirit le mot médium et choisissons d'appeler ces gens des sensitifs, comme le veut la parapsychologie. Et je sais que des policiers, je pense notamment une conversation, on en avait fait jouer un extrait à Radio X-Files de Joseph Kosinczak, le policier qui a arrêté John Wayne Gacy, le tueur, le clown,
oui,
assassin. Et dans une entrevue avec Joseph Kosinczak, il me racontait qu'il avait fait appel notamment durant la période, à ce moment-là, John Gacy venait d'être incarcéré, mais on était toujours à la recherche d'un certain nombre de ses victimes. On sait qu'on en a trouvé 27 ou 28 là, sous sa maison et dans le vide sanitaire sous la maison, mais il y en avait quand même quelques-unes qui étaient manquantes, et principalement un certain Robert Peast, qui était celui qui avait déclenché en fait l'enquête qui a amené à l'arrestation de John Wayne Gacy. S'il n'y avait pas eu Robert Peast, peut-être que les policiers n'auraient pas été attirés vers Gacy et il aurait pu probablement faire bien d'autres victimes. Et Robert Peast n'a pas été retrouvé ni sous le garage de Gacy, ni dans le vide sanitaire. On devait trouver son corps ultérieurement dans la rivière des Plaines. Bon. Et Joseph Kosinczak, dans l'entrevue que j'avais fait avec lui, qu'on avait fait entendre un extrait, Kosinczak me racontait qu'au moment où Gacy était incarcéré et qu'on était toujours à la recherche des corps, il avait fait appel à une médium qui s'appelle Dorothy Hollison. Et en fait, c'est pas lui comme policier qui a fait appel à Dorothy Hollison, mais ce sont les parents de Robert Peast qui, voyant que le corps n'avait pas été trouvé, on comprend, les parents inquiets, ils avaient lu un article dans le Sélection du Reader's Digest, ce petit magazine mensuel, où on vantait les pouvoirs ou les qualités de visionnaire de Dorothy Hollison. Et les parents de Robert Peast avaient été voir Joseph Kosinczak et lui avaient demandé « Seriez-vous ouvert à travailler avec un ou une médium, hein, ou un sensitif? » Et Kosinczak avait accepté, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de deniers publics qui soient investis là-dedans.
Okay.
Et la famille de Robert Peast avait accepté de payer toutes les dépenses. Ils ont donc fait venir Dorothy Hollison à Des Plaines. Des Plaines, je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, c'est la banlieue de Chicago où les crimes ont été commis. Et Kosinczak, donc, accueille Dorothy Hollison. Alors là, je passe assez rapidement, mais il lui a donné, pendant les quelques jours qu'elle a été à Des Plaines, elle a donné plein d'informations. Et l'une des informations les plus pertinentes qu'elle lui a données, elle lui avait dit, peu importe ce que vous allez faire, Joe, hein, elle l'appelait Joe, elle dit, peu importe ce que vous allez faire, Joe, vous ne trouverez pas le corps de Robert Peace avant précisément le 9 avril.
Ça va être
le 9 avril. Elle lance ça comme ça. Non, elle part pas, à ce moment-là, il n'y a pas particulièrement de la neige.
Okay.
Elle dit, vous ne trouverez pas le corps, ça va être, ça vous donne rien de chercher le corps, vous allez le trouver le 9 avril. Ah, parfait. Donc, il prend une note de ça, il ramène dans l'hôtel de Sun à l'aéroport, elle retourne dans le New Jersey où elle habitait à l'époque. Et Cousin Zach me racontait, il le racontait dans l'entrevue, il dit là, à un moment donné, il dit, on est sur autre chose, on n'y pense plus, là. Les jours, les semaines s'écoulent. Et à un moment donné, je reçois un coup de téléphone. Et Dorothy Allison lui avait parlé aussi du mot, elle avait dit, est-ce que le mot green, c'était quelque chose comme green leaf, quelque chose comme ça. Et il dit, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je dis, non, pas du tout. Donc, il prend ça un peu en note. Et puis, voilà que, comme il raconte, il dit, voilà, evergreen, c'était le mot evergreen.
Okay.
Et là, il dit, voilà, les jours, les semaines, c'est cool. Et puis, à un moment donné, je suis au bureau, je reçois un coup de téléphone. C'est le bureau du shérif du Page County, hein, donc un des comtés de Chicago, qui me dit, écoute, Joe, on vient de trouver un corps au pied d'une falaise et il pourrait s'agir du corps du jeune Robert Peace. Alors, il dit, je me rends là. Et qu'on arrive tout près de l'endroit où le corps avait été trouvé, on ne pouvait pas se rendre directement pour X ou Y raison, des travaux routiers. Et là, il dit, on a dû passer à travers le cimetière pour aller de l'autre côté. Et le cimetière portait le nom de Evergreen, cimetière Evergreen. Il dit, là, la lumière flash un peu. Il dit, quand on est arrivé à l'autre bout, il dit, bon, effectivement, c'était le corps du jeune Robert Peace, les vêtements, tout ça. Et là, il dit... Je reviens au bureau et là, je regarde, je me prépare à faire la déposition, tout ça. Puis sur mon bureau, j'ai juste devant moi le calendrier qui marque 9 avril. Là. Et là, je repense immédiatement à Dorothy Allison. Donc, on comprend pour Joseph Cousin-Zach, c'était quelque chose de très important,
cette
intervention de Dorothy Allison. On en a déjà aussi parlé ici au Québec. C'est un voyant, appelons-le Monsieur X. À l'époque où je faisais cette émission avec Marceau,
oui.
On avait même reçu à l'émission M. X,
vrai.
Qui avait raconté son histoire. Donc, M. X, encore une fois, je rappelle aux gens, 1er novembre 1984, trois enfants disparaissent dans la région de Montréal, Maurice Vien, Sébastien
oui.
Métivier et Wilton Lubin. Et Sébastien Métivier n'a jamais été retrouvé. Wilton Lubin a été retrouvé là, tout près des îles de Boucherville, dans la région de Montréal. Et le jeune Maurice Vien lui a été retrouvé dans une maison abandonnée sur la rive sud de Montréal. Et dans le cas de Maurice Vien, ce qui est important de se rappeler de cette histoire-là, c'est que c'est un médium ou un sensitif qui a conduit les bénévoles à cet endroit-là. Évidemment, il y a tout le débat, est-ce que c'est un coup de chance, pas un coup de chance, on peut débattre tant qu'on veut, mais la réalité, elle est là pareil. Il y avait, après la disparition du jeune Maurice Vien, donc ces trois enfants disparaissent le 1er novembre 1984, les policiers sont à la recherche, et deux jours après, on retrouve le blouson de Maurice Vien sur l'autoroute 20. Et l'autoroute 20, bon, on le sait, ça relie le Canada d'un bout à l'autre. Donc, pour les policiers, ça leur signifie que Maurice Vien n'est plus dans la région de Montréal. Mais il peut être en Nouvelle-Écosse, il peut être n'importe où au Québec. Là, on sait pas.
D'un océan à l'autre.
On essaie d'un océan à l'autre. Alors, à ce moment-là, les policiers, on n'a même pas la preuve à ce moment-là que Lubin, Métivier et Maurice Vien ont été enlevés par un même agresseur. On n'a pas cette preuve-là. On sait que ce jour-là, trois enfants ont disparu. Deux jours après, on retrouve le blouson de Maurice Vien. Il y a des équipes de bénévoles qui s'organisent à travers le Québec. Et parmi ces groupes de bénévoles, il y a un hypnothérapeute de Beauport, hein, donc région de Québec, qui se rend à Montréal. Il connaît ce médium qu'on appellera M. X. Il le connaît, il est avec sa compagne et il est avec un policier d'ailleurs qui est en congé ce jour-là. Et donc les trois vont rencontrer le médium. Et là, le médium, qui habite la couronne nord de Montréal, refuse de les accompagner physiquement. Il dit « je n'irai pas avec vous ». Mais dit, quand vous allez retourner, et là, il leur donne des indications, il dit, vous allez retourner sur la rive sud de Montréal, près de la rivière Richelieu, quand vous serez là, vous me donnez un coup de fil. C'était une époque où on n'avait pas le téléphone portable encore.
Ouais.
Donc, on arrête là, ils vont dans une cabine téléphonique, appellent le médium, et là, le médium leur donne une série de références géographiques. Il dit, vous allez rouler vers le nord, vous allez voir une voie ferrée, une boîte postale. Bon, il leur donne des informations comme celle-là. Et là, il leur dit, à un moment donné, vous allez arriver dans un rang. Il va y avoir une maison abandonnée tout près d'un boisé. Il dit, Maurice Vien se trouve dans cette maison-là. Alors, les bénévoles suivent ces indications, voient les fameuses références géographiques et finalement découvrent cette maison à l'orée de la rue du Boisé. Maison abandonnée, les fenêtres sont placardées, pénètrent à l'intérieur et le corps de Maurice Vien, il est là. Et alors là, ces bénévoles appellent le service de police, c'est la Sûreté du Québec qui intervient. La première question, évidemment, des policiers, c'est de dire « Mais pourquoi êtes-vous venu ici? » Et on est loin, là. Il faut le dire, là. On est loin de la zone de recherche.
C'est quasiment suspicieux de se retrouver
voilà,
là.
On est loin de la zone de recherche, puis on est au milieu de nulle part, là. Donc là, les policiers veulent savoir qu'est-ce qui vous a amené à fouiller ici. Et là, ils ont dit « Ben voilà, un médium. » S'ils avaient été des gens du quartier ou de la région, on est dans des terres agricoles, on le sait, là, au Québec, on a lancé cet avis, les enfants sont disparus. Si ces gens-là avaient habité une maison voisine, ils auraient pu se dire, ben voilà, il y a une maison abandonnée, je suis à l'orée du Boisé, je vais aller voir. Mais là, c'est pas ça. On est ici, là, faut remettre ça dans le contexte. On est sur la rive sud de Montréal. Les gens qui découvrent le corps sont des gens de Beauport, à Québec, guidés par un médium de la rive nord. Là, on est vraiment dans un univers, il faut quand même tenir compte de ces éléments-là. Et quand ils disent, ben voilà, c'est un médium qui nous a guidés, ben on les amène au poste de police, central, à Montréal. Et à ce moment-là, M. X, qui regarde la télévision ce soir-là, voit Pierre Bruno à la télé qui dit au bulletin de 18h, oui, on a retrouvé le corps de Maurice Vien. Il semblerait qu'un médium aurait guidé les bénévoles. Il comprend qu'on parle de lui et il sait que son arrestation est imminente. Alors c'est lui-même qui va prendre contact avec la Sûreté du Québec en disant, je sais que vous allez bientôt cogner à ma porte. Alors, je prends les devants. Je suis le fameux médium en question. Et le lendemain, les policiers vont se rendre chez lui, vont l'interroger, vont même l'amener sur place. Ça, c'est un détail que peu de gens savent.
Okay.
Ils vont accompagner, ils vont demander à M. X de les accompagner. Ils vont se rendre sur place. Ils vont circuler sur les routes, les rangs aux alentours. Mais lui ne voit pas d'autres informations que celles qu'il a déjà données aux bénévoles qui ont retrouvé le corps de Maurice Vien. Éventuellement, je sais que des gens qui nous écoutent doivent se dire « Ah, c'est peut-être lui l'assassin. » Non, ce n'est pas lui l'assassin. Il a été lavé de tout soupçon. Et aujourd'hui, même si officiellement il n'y a pas eu d'arrestation, il y a un individu qui est décédé en prison quelques années après, un pédophile reconnu, et les policiers ont la conviction qu'il était l'assassin de Maurice Vien. Ils n'ont jamais trouvé assez d'éléments pour l'accuser formellement, mais ils ont la certitude que cet homme était l'assassin de Maurice Vien. Et cet homme n'avait bien sûr aucun lien avec le médium en question. Donc, dans ce cas-là, on se dit « Ah, c'est le fun, ça a fonctionné ». Mais la réalité, elle est autre. C'est-à-dire que les médiums qui vont être impliqués dans des trucs comme ça vont beaucoup capitaliser sur leur succès. « Oh, j'ai dit ceci ou j'ai dit cela ». Mais il faut faire attention, il y a dans parapsychologie un phénomène qu'on appelle le syndrome de Nostradamus. Le syndrome de Nostradamus, c'est de dire n'importe quoi sur n'importe quoi, il y aura forcément quelque chose qui
une
va
vérité.
Se produire.
Ah.
C'est ça. Donc, le syndrome de Nostradamus, c'est le truc du médium qui dit « Oui, bon, je vais dire, il raconte 50 affaires, mais sur 50 affaires, c'est sûr qu'il y en a 3, 4 de ces affaires qui vont être vraies. » Et
logique, Christian, qu'une horloge brisée qui va donner l'heure juste.
L'heure juste deux fois par jour. Donc, ouais. Si quelqu'un, moi, je veux dire, même je n'ai pas de talent dans cet univers-là, on me dit, ben là, Christian, là, je peux dire, ben moi, je suis voyant, puis je vais vous donner Cédrica Provencher, probablement morte dans un bois, près d'un cours d'eau. Tu comprends? Je peux dire plein d'affaires. Et quand on va le trouver, on dit, ah, je l'avais dit, je vais capitaliser sur les informations que j'ai dites, qui étaient vraies. Mais en même temps, je suis allé un peu à la pêche, puis j'ai dit n'importe quoi sur plein d'autres trucs. J'ai dit 5 affaires qui étaient vraies, mais j'en ai dit 30 qui n'étaient pas vraies. Mais évidemment, les 30 pas vraies, je m'en vanterai pas, là.
Et les gens vont l'oublier pour se concentrer sur ce qui était vrai.
Donc, les gens vont l'oublier. Donc, et je réponds à cette question-là, je sais que j'ai fait un grand détour, mais à cette question-là, est-ce qu'on doit mobiliser des forces de police? Bon, dans un premier temps, il faut se demander, bon, est-ce que, oui ou non, statistiquement, ça vaut la peine? Est-ce que les médiums ont réellement des dons, des performances qui sont extraordinaires? Jusqu'à maintenant, il faut bien le préciser, en laboratoire, ils ont lamentablement échoué. Il y a tout un débat, là. Est-ce que ça fonctionne mieux à l'extérieur à cause de la charge émotive que dans le laboratoire? On pourrait faire un débat, même une émission, une série complète là-dessus. Mais la question est, est-ce qu'on doit, on sait que les services de police sont souvent contingentés, est-ce qu'on peut se permettre de mobiliser 3 ou 4, quand la vie d'un enfant est en jeu, est-ce qu'on peut se permettre de mobiliser 2 ou 3 policiers à suivre des pistes comme ça qui sortent de nulle part? Je laisse les gens être juges de ça, mais bon, on pourra toujours se rappeler que des cas, ça semble avoir fonctionné, mais rappelons-nous, par exemple, dans le cas de Cédérica Provencher.
J'allais te poser la question, il y en a eu. Est-ce que ça amenait à des bonnes pistes?
Absolument rien. Ouais. Toutes les informations, finalement, qui ont été données dans le cas de Cédérica Provencher, c'est des informations qui étaient disponibles à n'importe qui. C'est-à-dire, bon, elle est probablement morte et dans un boisé. On n'avait pas besoin d'avoir un don de supervoyance pour essayer de déterminer ça. T'sais, tu comprends? C'est,
ouais.
Il y avait une chance que, après des mois, voire des années de disparition, ben, il y avait de fortes chances qu'elle soit décédée. Puis, elle devait être dans un endroit où elle avait été enterrée. Puis, c'est la meilleure place pour l'enterrer. Quand on regarde les tueurs en série, Dionne et autres, ben, on enterre les enfants ou nos victimes dans un boisé. On les enterre pas sur le bord de la route. Là. Fait que, s'il y avait des éléments là-dedans où on voit que ça n'a pas donné d'informations qui étaient qualitatives. Donc, moi, je pense que si des médiums décident d'intervenir dans des dossiers de police, ben, il faut rester ouvert, mais il faut être prudent avant de donner notre bénédiction à ce genre d'intervention, parce que jusqu'à maintenant, ça reste très fragile.
Et mettons, on ne mettrait pas tout le financement qu'on aurait la possibilité de mettre aussi sur des maîtres canins puis des chiens pour faire des recherches. Moi, je mettrais peut-être un petit peu plus de financement là-dessus avant de passer à cette option-là.
Moi, j'ai une réflexion qui, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « c'est donc bien bête de dire ça », mais j'ai une réflexion qui est peut-être un peu très basique, là. Mais tu sais que 90%, je sais que tu t'intéresses beaucoup aux choses criminelles.
Oui.
Tout ça. Tu sais que 90% des gens qui sont assassinés le sont par des connaissances.
Ben,
des
tellement.
Gens qui le connaissaient. Bon, 90%. Oui. Or, il y a des gens, des médiums, qui, pour 20$, sont prêts à communiquer avec n'importe qui. Hein? Donc, autrement dit, toi, tu arrives là, puis tu leur donnes 20$, puis à qui tu veux parler? Ton père, ta mère, ton oncle, peu importe. Hein? Puis ils sont capables de se brancher sur n'importe qui. Ben, je me dis, écoute, s'ils sont capables de se brancher sur n'importe qui, ben pourquoi ne se branchent-ils pas sur les défunts qui ont été assassinés? On pourrait régler d'un seul coup comme ça. Je lui donne 20$, ils viennent de régler 90% des dossiers policiers, puisque 90% des victimes de meurtre sont assassinés par des gens qu'ils connaissaient. Donc, si M. Tartampion est décédé, ben, prends contact avec M. Tartampion, puis il va dire, ben, c'est ma femme qui m'a assassiné. Ou prends contact avec Mme Machin, puis elle va dire, c'est mon mari qui m'a assassiné.
À moins que ce soit un tabou pour les esprits de dire qui est le meurtrier, là.
Ouais, mais... ouais, mais bon...
non, mais ça se peut.
J'essaie d'imaginer la loi de l'au-delà, là, mais bon... Alors, il y a cette réflexion qui est très basique, mais pourtant qui dit, ben là, c'est bien vrai. Si ces gens-là sont réellement capables de communiquer avec les défunts, et apparemment, ils sont capables, il suffit de leur montrer une photo du défunt, parce que souvent, ils fonctionnent de cette manière-là. Oh, tu me montres une photo de ton grand-père, je vais parler avec ton grand-père. Mais regarde, on va lui amener des photos des dossiers de la police, de tous les cas d'assassinat qui n'ont pas encore été réglés. On va lui amener des photos, puis on va lui dire, branchez-vous sur ces gens-là. Il y a au moins 90% de ces dossiers-là que vous allez pouvoir régler dans les prochaines minutes.
Avec un montant forfaitaire.
Oui, oui, et ça ne se produit pas. Donc, je lance comme ça la réflexion. Je sais que c'est une réflexion qui peut paraître très bête, là, mais c'est quand même, je la lance comme ça.
Et d'un autre côté, je ne sais pas si c'est parce qu'on a une hésitation à pointer du doigt les membres de la famille ou les proches, mais on dirait que ça reste encore une question de complexité. Tu sais, quand on a affaire à des avis de disparition ou à des meurtres, on a de la misère à pointer tout de suite les membres de la famille. Je prends un exemple, là, parce que dans les dernières semaines, il y a eu une disparition d'une jeune femme de 29 ans à Hemingford.
Ouais.
Et ça a pris quelques jours, une semaine, puis on a accusé son conjoint.
Son conjoint, oui.
Mais je l'ai dit, puis je me sentais quasiment mal de l'avoir dit en onde. Mais dès que j'ai vu dans les reportages qu'il refusait de s'adresser à la presse et de se prononcer pour les recherches, moi, j'ai eu un doute, là, puis tu sais, je suis pas devin, là.
Mm-hmm. Non, mais c'est sûr qu'il y a des comportements qui sont un peu agaçants. T'sais, c'est un peu comme les gens qui disent, dans le milieu policier, si on parle avec des policiers, même si le détecteur de mensonges n'est pas valable devant le tribunal,
ouais.
Quand on a un suspect qui refuse de passer le polygraphe, il y a déjà un drapeau rouge qui se lève.
Oui.
Les policiers disent, Marcel, tu dis que tu n'as pas tué ton épouse, parfait, est-ce que tu accepterais de passer le test du polygraphe?
Non.
Il répond non. Là, il y a un drapeau rouge qui se lève. Là. Même si le test ne serait pas valide devant un tribunal, il y a quand même un drapeau rouge qui se lève. Donc, il y a des comportements, bien sûr, qui sont assez agaçants. Mais C'est ça. Donc, je pose la question si des gens, si les médiums sont réellement capables. Et surtout, quand on regarde, quand les médiums, les gens rencontrent des médiums, moi, je trouve que les informations qui sont données à ce moment-là sont tellement insignifiantes. Hein, c'est les gens, on rencontre le médium, ils disent « Oui, je parle avec ton grand-père, puis il est content de toi. »
Il est fier de toi, oui, ça revient souvent.
Il est fier de toi, puis il est bien où ce qu'il est, puis il me dit « Fatouez-en pas pour une histoire assez banale. Ne t'en fais pas pour, ça va sûrement te dire quelque chose, la couleur de ta voiture. » Tu sais, et là, tu cherches dans ta tête, « Ouais, c'est vrai, j'ai voulu acheter une Hyundai bleue, puis je l'avais acheté rouge à l'époque, j'en avais parlé, ça doit être ça. » Donc, tu vois, on va un peu à la pêche, et l'information qu'on donne est souvent très insignifiante. Alors que, si ces gens-là ont réellement cette capacité de communiquer avec des défunts, ben, ils pourraient, d'un seul coup, comme ça, régler 90 % des enquêtes criminelles, t'sais.
Effectivement.
Mais bon, c'est une réflexion que je lançais comme ça.
Il nous reste encore un petit 2-3 minutes. À toi de me dire si on est capable de répondre à la question sur les Tesla.
Oui, j'aurais jamais pensé que j'aurais à répondre à cette question, mais ça m'est encore revenu ces derniers jours. C'est une vidéo qui circule, qui est devenue un peu virale, où une dame sur la côte nord, ou un coin comme ça, là, dans le bois de Rimouski, je crois, elle se trouve okay. avec sa voiture, elle entre dans un cimetière, elle roule très, très lentement, et là, on voit apparaître, alors qu'elle circule entre les tombes, elle voit apparaître sur l'écran, parce que son véhicule est doté d'un système de détection de proximité, donc des objets autour. Et là, on voit apparaître sur son écran des silhouettes de piétons, alors qu'elle est dans le milieu du cimetière. Et là, elle crie, « Ben voilà, ma Tesla détecte des fantômes. » Pouet. Non, ça fonctionne pas comme ça. Là. Bon, d'abord, dans un premier temps, il n'y a aucun appareil qui existe sur Terre qui détecte des fantômes. Il y a comme deux étapes qu'on doit franchir avant d'en arriver là. Il faut d'abord se poser la question, est-ce que des fantômes existent? Ce que la science n'a jamais démontré. Et si on arrivait à démontrer que les fantômes existent, il faudrait ensuite démontrer de quoi ils sont faits, quelle est la nature des fantômes, pour qu'on puisse imaginer des appareils en mesure de les détecter. Donc, tu vois, il y a très loin de la coupe aux lèvres. Oui. Ce qui se passe avec la Tesla, puis il n'y a pas que la Tesla, il y a d'autres appareils aussi, là, modernes, des voitures modernes, qui sont équipées de systèmes de détection de proximité. Ce qui se produit, en fait, c'est que la voiture elle a un système et elle a bien sûr un algorithme. Et ces systèmes-là, généralement, il y a plusieurs systèmes, mais généralement, les systèmes fonctionnent à l'infrarouge, par une forme de d'écholocation, un peu comme les chauves-souris. Donc, on envoie une onde et l'onde revient, et c'est la fonction de cette onde qui permet de déterminer la proximité, la distance de l'objet. Dans les algorithmes de l'appareil, si tu te promènes lentement dans le cimetière, et là, tu vois apparaître ces silhouettes, c'est parce que le système, lui, détecte qu'il y a des pierres tombales, mais il n'y a pas le petit émoticône de pierres tombales. Il n'y a pas ça, lui. Donc, okay. Il se dit, OK, il y a un objet au côté de la voiture, là, il considère que la voiture avance, par exemple, à 2 km/h ou 1 km/h. Il détecte qu'il y a des objets et ces objets sont nombreux et ne semblent pas bouger ou bouger très, très, très lentement. Donc, dans ses algorithmes, il dit, bon, qu'est-ce qui peut être aux côtés de la voiture qui peut se déplacer très lentement et qui fait à peu près 1,65 m ou 1,70 m de haut ou 1,30 m de haut? Bien, dans ses algorithmes, il y a le piéton, le cycliste, la voiture, le camion, l'avion, l'hélicoptère, là, ben bon, mais il n'y a pas le fantôme, il n'y a pas ça, il n'y a pas la pierre tombale.
Ça va prendre une mise à jour.
Voilà, donc en fonction de ces algorithmes, et pourquoi ça se produit dans certains endroits du cimetière? Bien, parce que la position des pierres tombales permet un meilleur écho. Hein. À d'autres endroits, peut-être que l'écho se perd, mais à d'autres endroits, juste au côté de la voiture, il y a une pierre tombale, il y en a une autre au côté. Bon, il y a comme une disposition des pierres tombales qui font comme différents écrans, renvoient l'écho à la voiture. Et comme cet objet-là, il n'est pas très grand, comme il ne se déplace pas vite, il lui voit à travers son système et par ses algorithmes, il se dit, ben, c'est probablement un ou des piétons. Et là, on voit apparaître sur l'écran des piétons. Mais ce n'est pas parce que l'appareil a détecté des fantômes. Il a détecté qu'il y avait des objets et en fonction de ses capacités, de ses filtres, il a identifié ces objets-là comme étant des piétons. Mais bon, ce n'est pas des fantômes. Et pourquoi ça se produit dans certains? Parce que les gens vont vite réagir. Oui, mais pourquoi ça se produit à tel endroit dans le cimetière et pas à d'autres? C'est probablement la disposition des tombes qui crée cet effet de résonance à travers les émissions infrarouges de l'appareil de détection. Et très certainement, si la dame avait circulé en sens inverse, ben, ça ne se serait pas produit. Elle serait arrivée aux côtés de la même pierre tombale, mais pas dans la même direction, et les fantômes auraient probablement disparu. Ça arrivait toujours au même endroit, et là, elle semblait être persuadée qu'il y avait des fantômes.
Peut-être qu'ils se cachent.
Oui, c'est ça. Donc, non, les systèmes, ce genre de système-là, ce sont des systèmes de détection de proximité, puis évidemment, ils sont assez... Ce sont des appareils qui sont limités limités en fonction de ce que l'on risque de rencontrer. Donc, non, ils ne détecteront pas qu'il y a une pierre tombale ou qu'il y a un fantôme, là. Donc, il ne faut pas s'énerver avec ça. Puis, il n'y a pas que les Tesla qui font ça, là. Il y a d'autres véhicules de d'autres compagnies luxueuses qui ont également des systèmes de détection de proximité qui donnent exactement le même écho, là. Donc, non, il n'y a pas. Les Tesla ne sont pas devenus des machines à détecter des fantômes.
Et ce que je m'amuse à retenir, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui se promènent dans les cimetières pour des raisons que je ne veux pas comprendre. C'est pas mal la morale de l'histoire. C'est comme, qu'est-ce que vous faites?
Vous ne trouverez pas de borne de chargement dans le cimetière.
Non, ça m'étonnerait aussi, Christian. Je te remercie beaucoup pour l'émission de ce soir. La semaine prochaine, on va préciser aux auditeurs que ce sera des meilleurs moments. Car on avait un conflit d'horaire, on ne sera pas en direct vendredi prochain. On va être de retour pour le 25 octobre prochain.
Oui, et le 25 octobre, on va reprendre là où on se laisse ce soir, c'est-à-dire on va recommencer avec notre thématique sur les ovnis.
Excellent. Je vous souhaite un excellent long week-end, congé d'Action de grâce lundi. Les meilleurs moments de Radio X seront là lundi, mais nouvel épisode de Suspect X dès 22h. Alors, on ne vous laisse pas en plan avec des reprises pour ce show-là. Il y aura un Suspect X, un tout nouvel épisode, lundi 22h. Christian, merci beaucoup et bon week-end.
Ça me fait plaisir. Bon week-end à toi aussi.
Bye-bye.